France Culture. Le journal Estelle Caméraire.
Bonjour à toutes et à tous. La guerre entre le Hamas et Israël serait dans une phase décisive, selon la prise de parole de Benjamin Netanyahou hier. Les familles d'otages demandent la reprise des négociations. Le deuxième cycle de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis s'est achevé hier à Rome et avance lentement, mais les tensions s'apaisent. Le gouvernement français s'imagine en refuge des chercheurs américains, mais l'initiative Choose Friends for Science a un périmètre limité. La proposition de l'Ukraine de mettre en œuvre et de prolonger le cessez-le-feu pendant 30 jours après minuit ce soir reste sur la table, vient de déclarer Volodymyr Zelensky dans un communiqué posté tout à l'heure. Le président ukrainien accuse la Russie de ne pas respecter la trêve de Pâques qu'elle a elle-même ordonnée. Raids aériens, attaques aux drones, l'artillerie russe continue même d'être entendue sur le front. Depuis hier 17h, les combats sont pourtant censés être suspendus et ce jusqu'à ce soir minuit. Volodymyr Zelensky s'était engagé à respecter la trêve avant de déclarer qu'il ne pouvait avoir aucune confiance en Moscou. Pas d'espoir de trêve non plus à Gaza. Hier soir, à la télévision, Benjamin Netanyahou a affirmé que la guerre contre le Hamas était dans une phase décisive. Il assure pouvoir ramener les otages israéliens sans céder aux diktats du mouvement islamique palestinien. C'est la première réaction officielle du Premier ministre depuis le rejet par le Hamas d'une proposition israélienne de cesser le feu. Le forum des familles d'otages, principal à l'association militant pour la libération des Israéliens, retenue à Gaza, réclame à nouveau une solution négociée, même si cela implique de mettre fin au combat. Les explications de Michel Paul.
Le Premier ministre israélien attaque ceux qui en Israël demandent la fin de la guerre pour obtenir la libération des otages. « Ils font le jeu du Hamas », dit Benjamin Netanyahou. « Je ne céderai pas aux assassins », proclame-t-il dans une déclaration vidéo préenregistrée.
En tant que Premier ministre, je ne capitule pas. Nous ne mettrons pas fin à cette guerre de rédemption avant de détruire le Hamas à Gaza, avant de ramener tous les otages et avant de garantir que la bande de Gaza ne présente plus de danger pour la sécurité d'Israël.
Le Hamas n'est pas stupide, ils veulent des garanties internationales contraignantes qui empêcheraient la reprise de la guerre, souligne encore Netanyahou, des propos qui ont provoqué la colère du Forum des familles d'otages et Naf Zangoker, la mère de Matan, captif à Gaza depuis le 7 octobre 2023.
Netanyahou refuse de terminer la guerre pour des raisons personnelles. Il enterre les otages dans les tunnels. Netanyahou, les familles veulent des réponses. Le peuple veut des réponses.
Et le Premier ministre israélien réaffirme également sa position sur l'Iran. « Nous les empêcherons d'obtenir une arme nucléaire », souligne-t-il.
L'Iran qui a rendez-vous avec Washington la semaine prochaine pour continuer les discussions sur le nucléaire iranien après les négociations achevées hier à Rome qui se sont déroulées dans une atmosphère constructive selon les deux parties. Iraniens et Américains souhaitent trouver un accord qui assurera un Iran sans armes nucléaires et sans sanctions d'après la diplomatie omanaise. Les tensions sont en train de s'apaiser, Isabelle Labéry.
À ce stade, il ne s'agit que de négociations indirectes. Les équipes sont toujours installées dans des pièces différentes et c'est le chef de la diplomatie omanaise qui fait la navette de l'une à l'autre. Mais hier, les pourparlers ont duré 4 heures, quasiment 2 fois plus que la semaine dernière et ils reprendront samedi à Oman, toujours avec l'émissaire américain Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, qu'il a reconnu hier soir. Les négociations avance. Vendredi à Moscou, il avait déjà jugé possible un nouvel accord, à condition, je le cite, que les États-Unis ne formulent pas d'exigences déraisonnables. Ce que veulent les Iraniens, c'est d'abord la levée des sanctions, rétablies en 2018 quand Donald Trump a quitté l'accord sur le nucléaire. Téhéran parle de punitions injustes sur une économie dévastée par une inflation incontrôlable et la chute de sa monnaie nationale. Ensuite, si l'Iran est prêt à accepter certaines limites à ses activités d'enrichissement d'uranium, pas question pour autant de subir un démantèlement total de son programme. Aujourd'hui, l'Iran a la capacité d'enrichir de l'uranium jusqu'à 60%, pas loin des 90% nécessaires à la fabrication de l'arme nucléaire, ce que veut éviter à tout prix le président américain, qui n'a pas exclu de bombarder l'Iran en cas d'échec de la diplomatie.
Isabelle Labéry, l'administration Trump est bien loin d'apaiser les tensions avec les Américains. Résistons à la tyrannie, pas de roi en Amérique, c'est ce qu'on pouvait lire hier sur des pancartes, à côté d'images de Donald Trump affublé d'une moustache à la Hitler. Des milliers de personnes ont manifesté hier à New York et dans d'autres grandes villes des États-Unis pour dénoncer la politique anti-immigration de la Maison-Blanche, au moment même où la Cour suprême a suspendu l'expulsion de migrants vénézuéliens menée par Donald Trump. Les immigrés sont les bienvenus ici, scandait la foule. La mobilisation était organisée par une association 50-51, soit 50 manifestations dans les 50 États du pays et aboutissant à un mouvement unique d'opposition au président républicain. La France se rêve en terre d'accueil pour les cerveaux américains à l'heure où de nombreux scientifiques cherchent à fuir la politique de Donald Trump. Hier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche indiquait que des centaines de chercheurs pourraient être accueillis en France. Une annonce qui intervient au lendemain du lancement d'une plateforme Choose Friends for Science qui permet aux universités de déposer des projets impliquant des chercheurs internationaux. Autant d'initiatives bienvenues pour Olivier Bernet, directeur de recherche au CNRS et co-organisateur de Stand Up for Science en France, mais qui ne constitue en rien une réponse suffisante face à l'ampleur de destruction de la recherche aux États-Unis.
L'ampleur de l'attaque, elle est immense. Ce sont des milliers de personnes qui sont visées, des milliards de dollars de financement qui sont supprimés. Pour faire face à ça, c'est extrêmement difficile. Au passage, on peut noter que dans cet accueil Choose France for Science, on a aussi un périmètre qui est limité aux sciences naturelles essentiellement et que les sciences humaines et sociales, qui pourtant sont essentielles dans les crises qu'on traverse, eh bien elles sont exclues aussi du dispositif. On peut se réjouir du fait qu'on va accueillir quelques scientifiques qui viendront des États-Unis. La solidarité international du monde scientifique, c'est quelque chose qui est historique et c'est très bien. Mais il faut rester vigilant sur beaucoup de points, je pense, et apporter de la nuance. J'ajoute aussi que c'est pas la première fois qu'on a des annonces de ce type. En 2017, à l'occasion de la première élection de Donald Trump, Emmanuel Macron avait annoncé, avec des annonces assez spectaculaires, la mise en place du dispositif qui s'appelait Make Our Planet Great Again pour accueillir des scientifiques aussi venus des États-Unis. Finalement, c'est un dispositif qui a été à la fois très opaque, dont la mise en place a été assez compliquée. Et puis finalement, peu de personnes ont été accueillies. Et en termes de financement, c'était moitié État et moitié organisme scientifique. Et donc voilà, ça n'a pas été peut-être aussi grandiose que ce qui avait été annoncé au départ.
Olivier Bernet au micro d'Héloïse Weiss. Les beaux jours sont de retour et les hérissons aussi. Les petites bêtes à pic sortent tout juste de leur hibernation, à leurs risques et périls. Des broussailleuses, tondeuses, voitures, cette espèce sauvage protégée et menacée doit affronter tous les dangers. Elisa Savate a rencontré des citoyens de la région parisienne qui prennent de leur temps pour soigner et sauver les hérissons.
Plusieurs fois par semaine, Manuel Desaguirre, président de l'association RNSEUS France, emmène des hérissons souffrants chez une vétérinaire. Si avec une équipe de bénévoles, il fait les premiers soins dans une clinique du Bois de Vincennes à Paris, parfois ces mammifères épineux nécessitent des examens plus poussés. C'est le cas d'une nouvelle pensionnaire, une hérissonne prénommée Rémi.
Il a perdu de vendredi à hier matin un quart de son poids. Il avait perdu 118 grammes.
Oula, oui, c'est énorme. Ah non, tu vois. Bah dis donc, t'attaques ?
Ah bah oui, mais...
Bah alors, à ce point-là ?
Alors, je l'ai confiné.
D'accord.
Parce que sinon, voilà, il mangeait pas, il pouvait pas, il tournait.
D'accord, et là, il tourne en rond.
Anouchka Skachkovski fait partie des rares vétérinaires qui acceptent de soigner des hérissons autour de Paris.
Je trouvais ça sympa, simplement, de pouvoir contribuer à la sauvegarde un petit peu de la faune sauvage. C'est effectivement pas quelque chose qu'on fait de manière classique. Donc voilà, ça change un petit peu des chiens et des chats, et ça permet de voir des animaux qu'on voit pas forcément dans le quotidien.
Les hérissons font partie du quotidien de Sarah et Jérôme. Passionnés, ils ont créé chez eux à Orsay le centre de soins Les Petits qui Piquent. Dans leur jardin, une dizaine d'enclos avec de la paille et du bois accueillent les hérissons blessés, malnutris ou encore les choupissons orphelins qu'il faut nourrir toutes les deux heures.
J'ai une dizaine d'appels par jour, l'été beaucoup plus encore. Le jour de Noël, on a reçu un hérisson qu'on a appelé Noël. Le 31 décembre au soir, on a encore reçu un hérisson qu'on a appelé Sylvestre. Deux hérissons qui montrent bien qu'on travaille tous les jours.
Si les demandes d'appels ne font qu'augmenter, c'est parce que le hérisson doit survivre dans un environnement qui lui est de plus en plus hostile.
Et c'est un animal qui rencontre vraiment de très très grandes difficultés dans sa vie de tous les jours. il ne trouve plus à manger parce qu'il y a de moins en moins d'insectes. Il n'arrive plus à se déplacer parce que le jardin est grillagé avec des murs. Et du coup, il n'arrive plus à circuler, donc il n'arrive plus à trouver des congénères pour se reproduire. Il est obligé de passer par les routes, il se fait écraser.
Alors pour les aider, il y a des gestes simples à faire dans son jardin. Déposer des gamelles d'eau et de croquettes de chat.
Elisa Savate, le temps est couvert ce matin, des orages dans le nord, de la pluie à l'ouest, mais de belles éclaircies au sud.